Il est 8h, bon réveil.
Ce sont plutôt les garçons qui vont aller jouer au football au milieu de la cour et que les filles vont se retrouver dans les périphéries à discuter ou à se poser par terre sans activité.
L'égalité femmes-hommes commence dès la cour de récréation. Nouveau cheval de bataille des élus écologistes lyonnais, faire voter un budget qui lutte autant que possible contre les discriminations de genre. L'économie à la une ce matin entre une litanie de plans sociaux et en même temps des prévisions de croissance, un chouïa meilleur que prévu et un frémissement du nombre d'apprentis. Les tourniquets du métro parisien voient passer moins de monde qu'avant la crise sanitaire. Encore aujourd'hui, la fréquentation est en baisse d'un tiers. C'est une information Europe 1. Dans ce journal, plus rouge sera le logo Nutri-Score sur les aliments que vous mangez, plus votre risque de mortalité augmentera, conclut une grande étude française. Clarissa Jean-Philippe, victime d'Amédie Coulibaly le 8 janvier 2015. Sa mère s'apprête à témoigner, elle se confie au micro d'Europe 1. Et puis les libraires espèrent avoir vraiment tourné la page du confinement. Les ventes sont élevées et le reste.
Les montagnes russes des chiffres de la croissance et quelques signaux positif, rassurant. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Très bon réveil à toutes et à tous. Avec Europe Matin, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'argent n'a pas d'odeur, mais a-t-il un sexe ou un genre? C'est ce que semblent professer les élus de Lyon qui ont entre les mains un levier de 700 millions d'euros. C'est le budget de la ville à répartir en vue de son vote prochainement, un levier pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
On sait que la lutte contre les stéréotypes et les violences sexistes, cela s'apprend et ça commence donc dès l'enfance. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, nous explique ce que la nouvelle majorité écologiste à Lyon a en tête.
C'était une promesse de campagne des écologistes, ce sera bientôt une réalité à Lyon. Le prochain budget de la ville, 700 millions d'euros tout de même, sera genré, c'est-à-dire examiné selon le critère de l'égalité homme-femme, explique Audrey Henoch, adjointe aux finances.
C'est une autre vision du budget, c'est-à-dire concrètement que pour chaque ligne budgétaire, pour chaque investissement, on peut évaluer si cette action va plutôt dans le sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, est plutôt neutre ou plutôt un effet négatif sur l'égalité.
Une petite révolution et une première en France dans une ville aussi importante, les premiers secteurs concernés seront l'éducation et le sport, avec un exemple très concret de ce que cela pourra donner.
Pour l'école, c'est éviter de créer un terrain de football en plein milieu de la cour, parce qu'on sait que ce sont plutôt les garçons qui vont aller jouer au football au milieu de la cour et que les filles vont se retrouver dans les périphéries à discuter ou à se poser par terre sans activité. On se rend compte qu'il faut déconstruire certaines idées reçues pour pouvoir avancer sur l'égalité femmes-hommes.
À la place du terrain de foot, il pourra y avoir des carrés végétalisés pour permettre aux filles et aux garçons de jardiner, ou bien des espaces pour faire du hand ou pour jouer au ballon prisonnier, jeu moins connoté garçon. Une méthode nouvelle qui s'appliquera dans un second temps aux aménagements urbains et à la culture. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La politique encore avec le retour sur l'estrade d'un meeting d'Édouard Philippe hier soir à Octeville-sur-Mer. C'était pour soutenir les candidats de la droite et du centre aux élections sénatoriales. L'ex-premier ministre prévient que les temps qui viennent vont être difficiles. Nous allons affronter une tempête, dit-il. Tempête économique, tempête sanitaire, peut-être une tempête sociale.
Il faut dire que les annonces de plans sociaux lui donnent raison. Le dernier en date, les 863 postes supprimés par Bridgestone à Béthune. Mais il y a aussi quelques signaux encore timides qui peuvent inciter à l'optimisme.
L'apprentissage, par exemple, dopé par les aides de 5 à 8 000 euros par contrat. La directrice générale déléguée du réseau des chambres de commerce et d'industrie de France, Sandrine Verly, confirme ce redémarrage.
Ça y est, ça démarre. Alors évidemment, c'est différent selon les territoires et selon les secteurs d'activité. C'est plutôt les secteurs du service et les secteurs de l'immobilier où là, on est en train de faire le plein, par exemple. Et c'est dans les secteurs de la restauration et donc tout ce qui est lié au niveau du tourisme où évidemment, il y a encore des craintes parce que qui dit apprentissage dit emploi et tout est lié. Et c'est des secteurs qui, évidemment, vous le savez, ont beaucoup souffert.
Cette tendance donnée hier en direct sur Europe 1 par Sandrine Verly dans l'émission La France bouge entre 13h et 14h.
Autre indicateur, et on en parlera ici même dans 10 minutes avec le gouverneur de la Banque de France, les prévisions de croissance pour l'année 2020.
Emmanuel Dutheil, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. On passe de moins 11 à moins 10%, c'est toujours ça de prix. Comment ça s'explique?
Eh bien, c'est assez simple. La reprise a été dans certains secteurs tout simplement plus forte que prévu. C'est le cas par exemple dans le bâtiment où l'on n'est pas loin du niveau d'avant-crise. Et du coup, ça permet au gouvernement de penser que le recul de la croissance sera moins fort qu'escompté. Chose assez rare, le gouvernement est toujours plus pessimiste que la Banque de France ou l'OCDE, ce qui fait dire à certains que le gouvernement fait un petit peu de politique et veut se réserver la possibilité d'annoncer de moins mauvaises nouvelles dans les mois à venir. Dans tous les cas, Bercy table toujours pour l'an prochain sur un très fort rebond de la croissance, plus 8%. Et pour y arriver, l'exécutif compte sur le plan de relance avec cette énorme inquiétude. Il faut que l'on dépense vite et bien pour que tout cela fonctionne vraiment, dit-on à Bercy.
Emmanuel Dutheil, sur le front de l'épidémie, près de 9800 cas de contamination recensés en 24 heures. 649 hospitalisations hier, c'est encore en légère augmentation. On attend aujourd'hui une conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. Hier soir, à Rennes, les bars ont dû fermer à 23 heures, mesure valable pour au moins 2 semaines. Il y a 6 mois exactement, le 17 mars, la France basculait à midi dans le confinement. S'ouvrait alors une période de quasi-silence sur les autoroutes, dans les rues, mais aussi dans les trains et les métros.
Bonjour Aurélien Fleurot.
Bonjour.
Alors, on est loin des quasi-trains fantômes du cœur du confinement, mais vous êtes ici ce matin pour nous révéler que dans les transports en commun d'Île-de-France, la fréquentation n'est toujours pas revenue à la normale.
Ah oui, les chiffres n'ont quasiment pas bougé. 60% de fréquentation cet été sur les lignes de la RATP, 65% ces derniers jours, donc malgré le retour des vacanciers et malgré la rentrée scolaire, eh bien beaucoup d'usagers des transports en commun semblent avoir durablement choisi une autre option pour se déplacer. Même constat sur le réseau transilien, les trains de banlieue gérés par la SNCF avec 60% de passagers. En un an, cela fait plus d'1 million de personnes en moins chaque jour. Parmi les explications, le télétravail qui se pérennise en Île-de-France, la voiture pour certains, mais surtout le vélo. Marie-Christine a troqué la ligne 13 du métro contre un deux roues.
Avec le Covid, je me suis remis au vélo. Donc c'est vrai que j'ai changé un peu mes habitudes. Je prenais 2 lignes de métro. Je mettais 30 minutes, en vélo je mets 40. J'ai des problèmes de santé, donc je préfère m'abstenir de prendre le métro pour l'instant. Tant que je peux le faire en vélo, je le fais en vélo.
Pour l'instant, précise-t-elle, parce que les embouteillages sur les pistes cyclables commencent à la faire douter. Entre mai et août, elles ont attiré 67% de vélos supplémentaires par rapport à 2019. Et les Vélib ont connu il y a quelques jours un pic d'utilisation avec plus de 200 000 courses en 24 heures. C'est 2 fois plus qu'il y a un an.
Information Europe 1 que vous signez ce matin, Aurélien Fleurot.
Peut-on parler d'un exode? En tout cas, les achats de résidences secondaires hors des grandes villes sont en augmentation. Pas pour y passer quelques jours de vacances, mais pour s'y installer un tiers, voire la moitié de son temps.
Oui, c'est une vraie tendance permise par le télétravail, là aussi, et que l'on vérifie chez de plus en plus de notaires et d'agences immobilières. Théo Manval l'a vu dans le Perche, entre Chartres et Alençon, les visites continuent.
C'est une maison percheronne, comme vous pouvez le voir. Il y a une chambre double, une chambre d'amis. On n'est pas sur des surfaces parisiennes, là.
Elle a signé ce lundi. Claire est avec son mari, l'heureuse nouvelle propriétaire d'une maison de 160 mètres carrés, un grand jardin à Charançais, dans l'Orne. Un investissement pas comme maison de vacances, non, presque une deuxième résidence principale, en plus de leur appartement francilien.
C'est à 1h20 de Paris. Avec le télétravail maintenant, on peut même partir le jeudi soir et rentrer le mardi matin. Maintenant, c'est plus vraiment la maison de week-end. C'est une maison de week-end plus. Week-end plus télétravail.
D'ailleurs, la pièce dédiée est déjà toute trouvée.
Une pièce qui est vraiment parfaite pour ça, la bonne lumière, les bons branchements.
C'était leur rêve. Depuis longtemps, ils ont franchi le pas juste après le confinement, loin, très loin d'être les seuls.
On a fait quelques visites, les biens partaient en 24 heures. Les gens les achetaient en 24 heures.
Une tendance que confirme au niveau national la présidente du réseau immobilier Orpi, Christine Fumagalli, région les plus courues, près d'Orléans, Chartres ou encore certaines zones du Cher.
Et là, on a un changement de profil d'acheteur qui est très net. On était plutôt sur des retraités il y a encore quelques temps. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des cadres dirigeants.
Avec comme conséquence inévitable une hausse des prix, plus 14% depuis le déconfinement dans une ville comme Saint-Amand-Montrond.
Vous l'avez repéré, ce petit logo coloré avec un dégradé du vert au rouge vif, le Nutri-Score, de plus en plus présent depuis 3 ans sur les emballages alimentaires.
Oui, loin d'être un gadget pour se donner bonne conscience quand on consomme un produit noté avec la lettre A et donc en vert, cette classification fait ses preuves aussi de l'autre côté de l'échelle. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
C'est ce que prouve cette étude menée par de nombreux chercheurs français, dont ceux de l'INSERM. Les aliments notés en rouge, donc avec la lettre E, augmentent le risque de mortalité.
Effectivement, et grâce à des questionnaires détaillés, ces chercheurs ont étudié les menus de 500 000 Européens dans 10 pays sur 17 ans. Ils les ont passés au crible de l'échelle Nutri-Score, donc de vert à rouge. Ils les ont ensuite comparés à l'état de santé des consommateurs, a expliqué Mélanie Deschazeaux, chercheuse à l'INSERM, l'une des auteurs de l'étude. Résultat, on a une nouvelle preuve que les amateurs d'aliments classés rouge ou orange ont plus de maladies chroniques ou de cancers, mais surtout, c'est chiffré, ils vivent moins longtemps que les autres.
Les personnes qui consomment des aliments de moins bonne qualité nutritionnelle vont avoir une mortalité augmentée d'environ 7%. Et ce qu'on entend par des aliments moins bien notés, finalement, ça va être des aliments qui vont être riches en énergie, riches en sel, riches en sucre, en acides gras saturés et plutôt pauvres en fibres, fruits et légumes ou en protéines.
L'étude confirme donc scientifiquement l'efficacité du Nutri-Score. Ce logo en couleur n'est pourtant présent aujourd'hui que sur 15 à 20% des produits alimentaires. alimentaire, car il est facultatif. Cette étude pourrait donc peut-être changer la donne et contribuer à le rendre obligatoire au moment de l'harmonisation européenne en 2022.
Merci.
Anne vous achetez en fonction de, du Nutri-Score, Anne?
Je suis daltonien, donc je suis
disqualifié.
C'est vrai,
c'est vrai, j'avais oublié.
Pardonnez les lettres. Les lettres A, B, C, D, E.
On regarde quand même.
C'était une fausse excuse. Merci Anne Le Gall. Aux États-Unis, la charge du démocrate Joe Biden contre Donald Trump à propos de la gestion de l'épidémie. La première responsabilité du président, dit-il, c'est de protéger le peuple américain et il ne le fera pas. Cela le disqualifie totalement.
8h10 sur Europe 1. Quand on pense aux attentats de janvier 2015, on se souvient de Charlie et de l'hypercachère. Il ne faut pas oublier Montrouge et le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe.
Oui, Amédie Coulibaly l'a tuée d'une balle dans le dos alors qu'elle intervenait sur un accident de la route. Aujourd'hui, la cour d'assises spéciale de Paris examine les faits. La famille, et notamment la mère de la policière, Marie-Louisa Jean-Philippe, est arrivée hier matin de Martinique. Justin Morin a pu la rencontrer pour Europe 1.
Marie-Louisa tourne les pages d'un album photo qu'elle a ramené de Martinique. À l'intérieur, toute la vie de sa fille Clarissa.
Elle est juste là, quand elle était à l'école. C'était sa vie.
Elle compte l'emmener au tribunal pour le montrer aux accusés.
Je vais les regarder dans les yeux pour voir comment ils sont. Alors j'ai peur, parce que de les voir, je revis en 2015 tout ce qui s'est passé. Mais je veux voir leur tête quand même. J'attends toujours des réponses. Tant que je n'ai pas de réponse, je ne peux pas faire le deuil.
Mais les obtiendra-t-elle vraiment de la part d'accusés qui tous nient avoir eu connaissance de ce que préparaient les terroristes? Son avocat l'a prévenu. Mais tant pis, si Marie-Louisa a pris l'avion jusqu'ici, c'est aussi pour que l'on se souvienne de Clarissa.
C'est important parce qu'elle est victime comme tout le monde de chez Charlie Hebdo. Elle n'avait rien demandé à quiconque et puis on prend la vie c'est ce qu'elle voulait vivre tout le temps. À 5 ans après, c'est toujours la même chose, c'est une haine qui est là, ça part pas, c'est une angoisse.
Depuis les attentats, sa santé s'est détériorée, mais si elle s'accroche, c'est pour comprendre, dit-elle, et pour enfin se confronter à ce qu'elle accuse d'avoir tué sa fille.
C'est à la frontière de la culture et de l'économie. Et cela fait partie des nouvelles que l'on savoure ce matin. Les librairies se portent bien.
Après les records de fréquentation de mai et juin, les ventes restent élevées, comme le confirment les libraires que Nicolas Carreau a rencontrés.
La littérature fonctionne toujours très bien et la rentrée littéraire casse la baraque. Donc ça, c'est la très bonne surprise.
Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris est surpris en bien. Plus 15% par rapport à l'année dernière. La crainte, c'était que les clients refassent leur stock après le confinement et s'en tiennent là. Mais pas du tout. Ils ne quitte pas la librairie pour au moins 2 raisons, selon Stanislas Rigaud.
Les gens qui reviennent sur des commerces plus locaux, on est l'un des rares domaines culturels à avoir une actualité forte et disponible. Et résultat, je pense qu'il y a toute une question aussi de budget. C'est-à-dire que les gens qui vont au théâtre, qui achètent des livres et qui vont au cinéma, ils achètent aujourd'hui plus de livres parce qu'ils vont ni à l'un ni à l'autre.
Il y a aussi une démarche militante parfois. C'est le cas pour Vanessa qui flâne dans les rayons avec déjà 2 livres sous le bras.
Je venais déjà beaucoup, je viens d'autant plus et je consomme d'autant plus parce que je ne veux pas que les libraires ferment. Donc je viens, je consomme et au lieu de passer à la médiathèque, j'achète. Je préfère manger des pâtes et m'acheter 3 livres de plus dans le mois.
Le bémol quand même, ce sont les rencontres avec les auteurs de la rentrée dans les librairies. Plusieurs d'entre elles ont dû être annulées. Les lecteurs n'aiment pas se réunir masqués.
Un petit mot de sport avec le football. Victoire du PSG 1-0 hier sur Metz. C'est la première victoire de sa saison de Ligue 1.
Petite victoire.
But à la 93e minute. Mmh. Ça a failli pas passer. Et puis ce soir, Reims joue en Ligue Europa contre le Servette de Genève.
Merci beaucoup.
Retour de Reims en Coupe d'Europe.
Retour de Reims en Coupe d'Europe. Football champagne.
Magique.
Merci beaucoup François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, hein. Il est 8h13.